Apis mellifera. Le rendez-vous de Gaël Matura avec le rucher école du CPIE de Caylus.
Bonjour Gaël.
Bonjour Lisa, bonjour CFM.
Gaëlle, l'animatrice du rucher école du CPIE Quercy-Garonne. On est bien à Caylus pour parler aujourd'hui de frelons asiatiques. On entend beaucoup parler, il vrombit. Il est encore là, il n'a pas assez fait froid pour assurer la descendance des abeilles.
Alors le frelon, il est effectivement toujours là. C'est pour ça qu'on a un peu décidé de faire cette émission de novembre. Parce que normalement, on va dire sur une année climatique standard, on commence à être débarrassé de la pression du frelon sur les ruchers.
Des tiques, des aoutas aussi, mais non.
et là, sur notre année de sécheresse 2022 et de chaleur qui perdure dans le temps, eh bien, les frelons sont toujours là et ils font des dégâts sur les ruchers.
18 ans de colonisation en Europe, on en est où ?
Alors, ce cher frelon asiatique, tout le monde est censé le savoir, il est arrivé en 2004 en Lot-et-Garonne, à travers une importation de poterie, dans une jardinerie, et puis ensuite il s'est répandu partout à travers la France. Donc maintenant, il est au Portugal, il est en Espagne, et sa progression, on pensait à un moment donné qu'on pourrait l'enrayer. Et maintenant, les scientifiques s'accordent à dire que non, la progression ne sera plus enrayable. Et l'an dernier, en 2021, il y a deux zones nouvelles qui ont été colonisées au sud et au nord des Pays-Bas. Donc vous voyez, ils remontent petit à petit en Europe.
Alors il y a des techniques pour essayer de sauver les abeilles, on va en parler. Des techniques.
Un peu du bricolage parfois.
Voilà, on fait bien comme on peut. En tout cas, petit rappel. Alors déjà, c'est quoi un frelon asiatique ? Comment il vit ? C'est aussi en colonie, il vit comme les abeilles en fait.
Oui, c'est un insecte social. Et le frelon, en fait, c'est une guêpe. Donc, que ça soit le frelon asiatique qu'on appelle Vespa velutina, sur le nom scientifique, ou son cousin européen, le frelon européen qu'on appelle Vespa crabeau. Donc nous, dans notre langage, on dit frelon, mais en fait, ce sont des guêpes. Puisque les guêpes, c'est aussi du genre Vespa. Donc le frelon, c'est une grosse guêpe qui vit en colonie. Et ce que nous appelons frelon, en fait, ce sont des frelones. Puisque c'est un peu la même organisation que les abeilles. On a une reine reproductrice qui va pondre des œufs, des mâles uniquement utiles à la reproduction, et ensuite des frelones, des ouvrières, plus ou moins nombreuses, qui vont chasser et s'occuper des larves, voilà.
Ils vivent le jour, on les voit le jour.
Oui, le frelon asiatique, c'est une espèce diurne. Dès que l'obscurité arrive, hop, tout le monde est au nid et il cesse son activité.
On parle reproduction de la frelonne asiatique.
Alors, la frelonne asiatique, donc on la pourchasse, on la piège souvent au printemps, au niveau des apiculteurs. Mais en fait, c'est en automne qu'elle va s'intéresser, comment dire, qu'elle va s'organiser pour la nouvelle génération.
C'est là, c'est maintenant en fait.
Donc c'est maintenant, c'est déjà fait. Voilà, on dit de octobre à novembre, sachant que le climat se modifie un peu. Donc ces femelles reproductrices, elles quittent le nid en compagnie de certains mâles pour s'accoupler. Et ce sont les seules, les femelles reproductrices, à hiverner. Parce que les mâles, eux, que ce soit les mâles qui se sont reproduits ou les mâles qui ne se sont pas reproduits, vont mourir. Et puis les dernières larves et les dernières ouvrières présentes au nid vont également mourir pendant l'hiver ou en début d'hiver. Et ensuite, au printemps, à partir de mars, traditionnellement, mais maintenant on peut le constater à partir de... on va dire mi-février, chaque reine fondatrice ébauche un nouveau nid. C'est ce qu'on appelle le nid primaire, c'est un petit nid rond en papier. Elle pond quelques œufs, elle soigne ses premières larves, et puis un mois à un mois et demi plus tard, ces larves deviendront des ouvrières adultes, capables de prendre en charge le travail de construction d'un plus gros nid et d'entretien de la colonie. À partir de ce moment-là, la reine va arrêter le travail qu'elle avait fait et elle ne va faire que pondre durant toute sa vie. Et évidemment, plus il y a d'ouvrières, plus la reine est en capacité de pondre parce qu'il y a des nouvelles alvéoles qui sont construites, il y a de la nourriture qui arrive, la chaleur du nid est maintenue. Donc en fait, c'est pareil, c'est un développement exponentiel. Plus il y a d'ouvrières, plus la reine est en folie de ponte.
Et plus il y a d'abeilles dans le secteur, hein, plus ils ont tendance à arriver. Ça mange quoi, les frelons asiatiques hein ?
Alors, les frelons, comme tous les autres frelons d'ailleurs, c'est un prédateur qui est assez généraliste et qui s'attaque à une grande variété de proies. Il ne faut pas croire qu'il mange que nos abeilles. Alors, il mange effectivement des abeilles, mais il mange aussi des guêpes, donc d'autres guêpes plus petites que lui, des mouches, des papillons et il paraîtrait quelques araignées, mais... On ne sait pas que l'araignée fasse partie de son menu préféré. Ce qu'on sait aussi, c'est que les frelons, ils viennent prélever de la viande sur des cadavres trouvés dans la nature d'animaux morts. Voilà, et vous avez tous déjà constaté, des fois, quand vous mangez votre barbecue en plein été, ben, vous avez des guêpes hein, qui viennent grignoter un bout de côtelette, un bout de saucisse. Voilà, ils viennent chercher de la viande. Donc, cette viande... elle n'est pas pour les frelons adultes, d'accord ? Ils mâchouillent cette viande, que ce soit une abeille, une mouche ou un bout de cadavre. Ils en font des boulettes et ils ramènent ça au nid pour nourrir les larves, car les larves sont carnivores. Les adultes frelons, eux, ils se nourrissent de liquides pâteux, plus ou moins sucrés. Du mielat, du nectar, du miel, du jus de fruits, des petits morceaux de fruits, voilà.
Les frelons asiatiques, c'est plutôt gros. On les reconnaît assez facilement, surtout quand ils sont en train de s'attaquer aux abeilles qui traînent. Ils ont des ruches, vous avez dit, en papier mâché.
Voilà. Alors, pas des ruches, des nids.
Des nids.
Des nids. Donc, effectivement, les frelons asiatiques, européens, les guêpes, certaines guêpes, pas tous, ils ont la capacité de fabriquer du papier. Donc, avec leurs mandibules, ils vont gratter l'écorce de certains arbres. Ils sont assez friands de l'écorce de frêne, parce que je pense que c'est une écorce qui doit être facile à enlever. Ils mâchouillent cette écorce, ils la mélangent avec leur salive, et ça fait cette pâte à papier. Et ensuite, les ouvrières modèlent cette pâte à papier avec leurs pattes, leurs mandibules, forment les alvéoles et le nid. Et évidemment, ces nids en papier sont légers, mais solides, et ils ont une isolation thermique parfaite, puisqu'à l'intérieur, c'est composé de différentes couches, c'est des galettes d'alvéoles qui se superposent les unes aux autres, donc il y a une inertie thermique qui est fabuleuse. Ils laissent des couloirs libres pour que l'air circule, pour pas qu'il fasse trop chaud non plus en été. Et puis, bah, ces nids, spécialement pour les frelons asiatiques, tous les apiculteurs les cherchent, l'année, hein, on garde les yeux en l'air, parce que en général ils sont sur des arbres très hauts, tout en haut, mais comme ils sont très bien camouflés au milieu du feuillage des arbres, on ne découvre les nids qu'à la chute des feuilles, et en général il est trop tard, puisque la colonie de frelons a déjà fait des dégâts sur les ruchers.
En principe de précaution, on pourrait dire qu'il faut éviter de poser ses ruchers à moins de 2 km de frênes.
Alors, de frênes et de grands arbres qui pourraient accueillir les nids et d'eau, parce qu'on sait que le frelon asiatique a besoin d'eau, plus d'eau que le frelon européen. Donc, sur les zones de... les vallées, on retrouve pas mal de frelons asiatiques. Les zones aussi où il y a des lacs, on va trouver des nids de frelons asiatiques.
Ouais, ce compte-là, on ne peut pas aller, dans... on peut pas aller partout, quoi.
Non, mais bon, il est quand même assez présent. Alors, il y a des études qui ont été faites sur le rayon d'action des ouvrières autour du nid. Donc, pour ça, on a capturé des frelons, on les a relâchés, un peu plus de 350. On a suivi l'activité journalière de plus de 150 ouvrières. Bon, il y a plein de méthodes différentes, hein. Ils collent des petits capteurs dessus, enfin, c'est très technique. Et le rayon d'action, au maximum, il est estimé à 2 km autour du nid. Donc, 2 km dans tous les sens. Mais c'est vraiment le maximum. Et le plus souvent, les ouvrières, elles chassent, elles déambulent, elles zonent entre 800 et 1000 mètres autour du nid. Voilà. Donc, on sait sur un rucher, quand on a une forte prédation, c'est qu'il y a un ou des nids qui sont à 1 km, 1,5 km de distance.
À propos de prédation sur le rucher, alors vous, au rucher école du CPIE Quercy-Garonne de Caylus, ça va à peu près, mais on disait avant de rentrer en studio que vous avez une voisine à 5 km qui, elle, se fait complètement dévorer. Alors, prédation sur les ruchers.
Oui. Donc, c'est vrai que la prédation, elle est très, très, très localisée. On ne peut pas faire de généralité. C'est vraiment en fonction de la présence ou pas de nids. Pour limiter cette prédation sur les ruchers, déjà, on va réduire les entrées des ruches. Cette réduction d'entrée, ben, ça évite aux souris de rentrer l'hiver dans les ruches, on en a déjà parlé, et ça évite aux frelons de rentrer. En sachant que si les frelons asiatiques commencent à rentrer dans les ruches, c'est que la colonie est déjà faible, elle est déjà en difficulté, qu'il est un peu trop tard pour cette colonie. La prédation sur les ruchers, principalement, c'est une chasse en semi-vol stationnaire. C'est pas un vrai vol stationnaire, mais ça y ressemble beaucoup. Et en fait, les ouvrières frelonnes, elles viennent au rucher, elles attendent que les ouvrières abeilles rentrent ou sortent de la ruche et elles les capturent à ce moment-là. Elles leur arrachent la tête, les pattes, les ailes et elles mâchent le reste. En fait, elles enlèvent les parties dures quoi, et elles mâchouillent le reste et elles ramènent ça au nid. Et on estime que... la présence du frelon sur le rucher, lorsqu'on commence à avoir 15 à 20 frelons devant une ruche, c'est déjà beaucoup, puisque vraisemblablement, déjà à partir de 4 frelons régulièrement devant une ruche, ça stresse la colonie. Et alors, de 15 à 20 frelons devant une colonie, alors là, il faut vraiment s'affoler, parce que ça veut dire que les abeilles vont être stressées. Elles vont consommer les réserves que normalement elles devraient garder pour l'hiver. S'il y a autant de frelons, il va y avoir moins de butineuses parce qu'elles se font boulotter à l'entrée ou à la sortie. Donc, que ce soit des butineuses qui rentrent encore un peu de pollen à cette saison ou qui ramènent de l'eau, bah, du coup, il va y avoir un déficit sur les rentrées d'eau, les rentrées de pollen, des choses comme ça. Vu qu'il y a moins de butineuses, les abeilles qui s'en nourrissent vont se mettre à changer de métier. Qu'il n'y a plus assez de butineuses, donc on va réadapter le travail de la colonie. Donc ça va créer un déséquilibre des travailleuses au sein de la colonie. Donc d'un petit stress, ça va devenir un stress généralisé. Ça va affaiblir la colonie. Et comme vous savez que dans toutes les colonies, il y a du varroa qui transporte plus ou moins de virus, eh bien tous ces facteurs, plus par exemple une famine aussi sur une année de sécheresse comme aujourd'hui, eh ben, ça fait que la prédation de frelons, c'est le coup fatal porté aux colonies.
Et en plus, le varroa, il ne va même pas sur le frelon asiatique.
Ouais, ça, c'est pas juste.
Quel imbécile. Alors, les moyens efficaces pour protéger son rucher, donc quand on commence à voir qu'il y a 3-4 frelons asiatiques qui traînent autour là.
Alors, il existe plein de moyens différents. Il y a beaucoup de moyens qui sont testés par les scientifiques, mais on en parlait aussi hors antenne. C'est des moyens qui n'arriveront jamais jusqu'aux apiculteurs sur le terrain. Donc moi, je vais vous parler de ce qui se fait actuellement pour nous, apiculteurs lambda. Donc on connaît les muselières. Donc les muselières, c'est des espèces de grilles plus ou moins bricolées. On peut en acheter, qu'on va poser sur l'entrée des ruches. Et ça évite le frelon de rentrer et ça lui évite d'être en vol stationnaire trop près. Donc les scientifiques, ils disent que ça pourrait réduire la pression de 40%. Mais il faut savoir que le frelon, quand il prélève les butineuses, s'il ne peut pas prélever les butineuses juste à l'entrée, il se recule un peu et il va prélever quand même des butineuses un peu plus loin. On peut peut-être penser que, vu que le frelon asiatique il est un peu reculé par rapport à l'entrée, ça va quand même moins stresser la colonie à l'intérieur. Mais ça n'empêche pas les prélèvements en extérieur. Donc ça, c'est une solution. Après, je vous conseille de ne pas dépenser une fortune sur les muselières et d'essayer plutôt de vous en bricoler. Et puis peut-être d'en acheter, mais peu, et de tester leur efficacité avant d'investir sur un grand nombre de muselières.
Il y a une taille standard par laquelle donc les abeilles vont passer par le trou, mais pas la frelonne.
Voilà, donc après il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles en plastique avec des trous en forme de ballon de rugby, où le frelon pourrait passer, mais ça le gêne, donc il ne passe pas. Après, il y a des modèles de muselières comme du grillage très serré, du petit grillage à poussin. Là, l'abeille, elle passe, mais elle est quand même aussi un peu embêtée pour passer. Voilà, bon, il y a différents modèles. Évidemment, chaque vendeur vous dira que son modèle est le meilleur. Moi, je n'émettrai pas d'avis sur les différents modèles. Après, il existe les harpes. Donc là, les harpes, c'est pareil. Soit ça se bricole, soit ça s'achète. Ça demande une installation un peu particulière, puisqu'en fait, c'est, ça porte bien son nom. Hein, ça ressemble à une harpe. C'est un cadre avec des fils métalliques tendus. Et dans ces fils métalliques, on fait passer un courant. Et lorsque le frelon va se retrouver et va toucher deux fils, il va être électrocuté.
L'abeille aussi.
L'abeille aussi, mais a priori, l'espacement est fait pour électrocuter un frelon, pas une abeille. Et donc, évidemment, il ne faut pas placer la harpe devant l'entrée de la ruche, hein, sinon on va faire chauffer ses abeilles. Donc, c'est plutôt à poser latéralement. Et sous la harpe, on va poser un récipient avec de l'eau ou de l'eau avec de l'huile pour que le frelon, s'il n'est que partiellement électrocuté, à la suite, il se noie. L'inconvénient des harpes, c'est que il faut faire attention, on va dire, à ces animaux domestiques. Ces chiens, ces chats, bon, normalement, ils vont pas trop sur le rucher, mais il faut faire attention. Ça demande aussi de pouvoir avoir un branchement électrique ou alors d'avoir des petits panneaux solaires. Bon, voilà, c'est une installation un peu plus technique. Voilà. Ensuite, on a le piégeage. Donc, ou le piégeage de printemps pour les fondatrices, pour les reines qui vont fabriquer des nouveaux nids. Ou alors le piégeage d'automne, et là le piégeage, enfin d'automne, d'été et d'automne, et là c'est pour essayer de limiter le nombre d'ouvrières frelons qui viennent se nourrir au rucher. Il faut bien savoir que ce piégeage, il n'est pas sélectif, c'est-à-dire que dedans vous allez aussi capturer alors, beaucoup de mouches, des papillons, très rarement des abeilles, quasiment jamais, les abeilles n'y vont pas, mais vous allez quand même attraper d'autres sortes d'insectes. Donc pour les gens qui sont très sensibles à la préservation de la biodiversité, le piégeage, même avec des hormones vendues par les labos, parce que les hormones ne sont pas encore super sélectives non plus, ce n'est pas une solution miracle. Et en fait, de solution miracle, malheureusement, il n'y en a pas. Par contre, moi, je peux vous donner deux conseils. C'est lorsque vous avez une forte prédation de frelons, c'est absolument de nourrir vos ruches, nourrir avec des sirops, donc lourds, parce que c'est plutôt en automne, et de faire un apport protéiné. Sinon, vos colonies vont se retrouver en carence. Ça va amener plein de conséquences néfastes derrière. En les nourrissant, vous les aidez. Et si vraiment vous voyez que la pression de frelons est trop énorme, ça veut dire que vous avez un nid autour, vous ne pourrez pas détruire ce nid, la solution qui vous reste, c'est de déplacer vos ruches. Et je conseille de plus en plus à mes adhérents sur le rucher école d'avoir une solution de secours, d'avoir un rucher fusible, entre guillemets, d'avoir un emplacement de secours et de se dire si jamais sur mon rucher principal je suis trop infestée, tant pis, je prends la décision et je déplace mes ruches sur un autre rucher en croisant les doigts que sur ce deuxième rucher il n'y ait pas un nid à proximité. Mais parfois cette solution là ça vous permet de sauver votre cheptel.
Et on rappelle que pour déplacer une ruche il faut d'abord les enfermer au frais et au sombre dans une cave pendant au moins 48 heures le temps qu'elles soient complètement déboussolées avant de les ressortir. Je ressors mes restes d'une vieille chronique.
Voilà. Alors ça, c'est si on veut les déplacer de moins de 3 km. Tout à fait. Et si on veut les déplacer de plus de 3 km, on a juste qu'à fermer la porte d'entrée le soir quand toutes les butineuses sont rentrées et hop, on amène ça sur le nouveau rucher tranquillement.
Pour lutter donc contre ce frelon asiatique, ces frelons asiatiques, en attendant qu'elles finissent par s'adapter comme les abeilles japonaises.
Ouais, les abeilles asiatiques, Apis cerana. Bon, on aimerait bien que nos abeilles européennes s'adaptent, mais je ne suis pas sûre qu'Apis mellifera y parvienne. On avait à un moment donné l'espoir que les frelons asiatiques disparaissent d'eux-mêmes, puisqu'on pensait que c'était une seule colonie qui avait colonisé l'Europe, il y allait avoir de la consanguinité. Donc il semblerait qu'il y ait un petit peu de consanguinité, qu'il se passe des trucs un peu bizarres au niveau des mâles, mais cette consanguinité, elle n'est pas suffisante, l'espèce, elle est trop résistante, et la progression, l'invasion du frelon asiatique continue. Je voulais juste citer mes sources. C'était de dire que toutes ces infos, elles viennent d'un colloque qui a été réalisé par l'ITSAP, l'Institut Technique et Scientifique de l'Abeille, et que ça peut se retrouver en ligne. Il y a 56 pages, il y a plein d'échanges, il y a plein de choses très intéressantes.
Mais parfaitement résumé dans cette chronique. On n'a pas dit d'ailleurs, les abeilles asiatiques s'adaptent contre le frelon en se mettant tout en boule autour de lui et qu'il le réchauffe parce que il survit à une température. Alors faites-la nous.
Donc oui, les abeilles asiatiques, elles entourent le frelon asiatique, elles le chauffent et il résiste à une température moindre que celle des abeilles. Voilà. Donc elles le mettent au micro-ondes en fait et il meurt.
On croise les doigts pour la suite. Elles vont peut-être nos locales hein, qui sont teigneuses, les petites noires, à Apis mellifera. Donc elle va peut-être comprendre qu'il faut réchauffer le corps de ces frelons pour les éliminer. Donc frelons asiatiques au menu de cette chronique Apis mellifera. Tout à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr si vous voulez en savoir plus sur les abeilles. Direction le Rucher École du CPIE, Kersi Garon, le CPIE Alpaïs de Bonetto, Bonetta. Akielus, donc vous êtes animatrice Gaëlle Maturel. Les cours reprennent, l'école reprend en janvier. Ça va se passer à la salle des associations.
Salle des fêtes.
Salle des fêtes. Pour commencer par des cours théoriques en attendant de raviver les activités dans les ruches en attendant le printemps. Donc Gaëlle, merci beaucoup. Au mois prochain.
À bientôt.